Chapitre 44. Ce matin, les rayons du soleil n'ont aucune chance de réussir à percer les spectaculaires nuages gris qui surplombent l'horizon. L'océan s'agite en profondeur et le vent paraît essayer de souffler de toutes parts, comme s'il testait différents angles pour mieux se déchaîner ensuite. La tempête attend son heure. Au port, les vagues giflent la jetée sans relâche. Le col remonté et les mains dans les poches, Rognard déambule sur le quai. Seul, il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Dès les premières lueurs de l'aube, il est sorti, alors que Kate dormait encore. L'esprit écartelé entre énigmes et menaces, il n'arrive plus à réfléchir, obsédé par la perspective que chaque minute qui passe le rapproche de son rendez-vous avec les tueurs. Objectivement, la probabilité qu'il réussisse à résoudre le mystère de la baie avant la fin de l'ultimatum est quasi nulle. D'ailleurs, s'il y parvenait, en livreur est-il vraiment la clé à ceux qui ont supprimé Linda et ses prédécesseurs? Dans tous les cas, il va lui falloir se préparer à cette confrontation. Mais en préservant Kate, qu'il a pris la décision de ne pas informer de l'échéance. Lorsqu'il a traversé le village de bonne heure, il n'a croisé personne. Les portes de l'atelier nautique n'étaient qu'entr'ouvertes, mais à l'intérieur on entendait déjà une ponceuse à l'ouvrage. À l'épicerie, avant l'arrivée des clients, ce n'était pas Sam qui rechargeait les rayonnages, mais une femme d'un certain âge, certainement sa mère. Que pouvaient faire Marie et son amoureux à cette heure matinale? Pourquoi certains habitants demeuraient-ils invisibles? Kilthorpe n'était-il peuplé que de fantômes, vivants ou morts? Parvenu au dernier tiers du quai, Chris s'arrête devant l'un des énormes anneaux d'amarrage rongés par la rouille. Il s'accroupit et le soulève, en le faisant jouer dans son arceau scellé. L'antique pièce métallique pèse son poids. Sa surface corrodée lui râpe la paume. Il lève le nez au vent et imagine l'immense vaisseau qui avait dû y être amarré pour stationner à flanc de quai. Une longue coque de bois ventrue, sans doute aussi haute qu'une maison d'un étage. Des mâts dressés vers l'azur et croisés de vergues, sur lesquels les gigantesques voiles étaient ramassées en attendant de reprendre le large. Il lui semble entendre les matelots qui s'interpellent d'un pont à l'autre. L'ambiance d'une activité grouillante est là. Les palans soulèvent caisses et ballots, pendant que les marins font la queue pour descendre à terre par des passerelles instables que seuls savent parcourir sans chuter. Les plus grands navires de l'époque étaient toujours marchands. Ils sillonnaient les mers, ralliant les plus florissantes cités portuaires d'Europe et même du monde pour alimenter le commerce alors en plein essor. Leurs soutes chargées de précieuses marchandises et de matières premières rares, ils convoyaient leurs cargaisons depuis des contrées lointaines vers les débarcadères où d'âpres négociants les payaient souvent à prix d'or. À Kilthorpe, aucun pêcheur n'aurait jamais eu les moyens de s'offrir des soieries, des épices ou des vins fins. Mais cette anse perdue aux eaux profondes s'imposait assurément comme l'endroit idéal pour introduire de la fausse monnaie dans un circuit d'échange déjà avide de profit. Cela ne pouvait s'organiser qu'avec la complicité d'un ou de plusieurs membres d'équipage, forcément haut gradés, qui, sous couvert d'une escale technique, auraient pu embarquer la production des faussaires et l'intégrer au livre de compte en toute impunité. Après tout, on enquête toujours quand il manque de l'argent, jamais quand il y en a plus que prévu. Dans ses notes, Peter Kinlock évoquait un capitaine espagnol avec qui son père entretenait des liens étroits. Le quai est désormais désert. Mais l'inexplicable raison qui lui a valu d'exister se trouve sans doute toujours dans les parages. Rognard atteint l'extrémité du quai. Il se tient face au chenal d'approche bordé par les îlots. Le vent le bouscule, mais cette fois, il ne vit pas cela comme un jeu. Une vague plus hargneuse que les autres s'écrase contre la jetée et rince le pavage jusqu'à ses pieds. Cela sonne comme un avertissement, un signe lui enjoignant de ne pas s'aventurer plus loin. Christopher ne va pas en tenir compte. Il n'a jamais été du genre à céder à l'intimidation. Et de toute façon, il n'a pas le choix.